instant, Jérémy Crozat, c'est un homme du monde. Il connaît toutes les célébrités et surtout les têtes couronnées. On va s'en rendre compte tout à l'heure. Et puis quelqu'un qui connaît toute la musique, c'est Jonathan avec nous ce matin aussi.
Je sais tout.
Par exemple, je sais que 2 plus 2, c'est égal à 4.
Oh, ça, c'est un très
encore,
bon début.
On n'est pas sûr. Hein,
et puis tu sais aussi qu'il y a beaucoup d'actrices et d'acteurs qui se sont essayés avec plus ou moins de bonheur à la musique. On a eu déjà une première enquête musicale il y a quelques semaines. Je crois que Jérémy était déjà là. Il a hésité à revenir d'ailleurs, sachant qu'il y aura un deuxième volet aujourd'hui.
Hein. Ce sera sympa, puis ça vous fait un petit quiz. Vous allez pouvoir de nouveau vous mesurer et essayer de découvrir de quel acteur il s'agit ou quelle actrice derrière ces chansons que je vous ai sélectionnées.
Et j'espère qu'il n'y aura pas de piège avec quelqu'un de Radio Fribourg comme la dernière fois.
Ah oui, c'est vrai, c'était un bon piège.
Ah oui, la gaffe la dernière fois. Hein. On se souvient qu'il y avait une chanson de Thierry Savary.
Voilà.
Et puis c'est toi qui étais là, Jérémy. Hein.
Oui, j'étais là.
Qu'est-ce que t'avais dit encore?
Rien, j'ai dit que c'était génial. J'ai dit bravo. Je sais pas qui c'est, mais c'est formidable.
On y croit tous.
Je sais pas qui c'est, mais j'adore.
On commence avec Jamais 203 juste après Téléphone. Ça, c'est vraiment toi sur.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
À l'ombre du baobab, avec Thierry.
Thierry Savary et ses invités, Michael Kam et Beat Kunz, à tous les trois, bienvenue dans C'est que du bonheur.
Merci, bonjour Caroline, bonjour les invités, Beat Kunz effectivement, et puis Michael Kam, Beat Kunz, le directeur du premier salon de l'entreprise, qui ouvre ses portes demain, si je ne m'abuse, hein. c'est 2 jours de folie pour les entrepreneurs, Beat.
Absolument.
2 jours radieux, j'imagine, vu votre sourire.
Voilà, grand sourire jusqu'aux oreilles.
Ben oui. C'est que les choses se passent bien.
Les choses se passent très bien.
D'accord.
Je vous remercie. Effectivement, nous attendons beaucoup de visiteurs. Nous avons quelques 70 à 80 exposants qui seront présents. Et puis, ce qui est très important, c'est naturellement aussi la partie forum, la partie conférence.
Ouais.
Nous aurons une quarantaine de conférences dont nous pourrons sans doute parler tout à l'heure.
Bien sûr.
Sur des thèmes qui touchent autant à la digitalisation qu'au secteur de la reprise d'entreprise ou à la formation.
Exactement, à la communication également, hein, puisque nous avons avec nous Michael Kam, qui est le fondateur, pas vraiment, parce que quand je vois la date de fondation de l'agence, qui est le directeur de l'agence Trio, une des agences les plus en vue du côté de Lausanne, publicitaire de l'année, Michael Kam, bravo.
Merci.
C'est bien.
Merci.
C'est bien. Et puis c'est vrai, je disais, c'est une agence qui a été fondée en 1931.
Oui,
donc vous n'étiez pas là.
En tout cas, par ma connaissance. Donc oui, c'est une toute ancienne agence qui est intéressant au niveau de la marque. Vous savez, on va aussi parler lors du salon de la communication et de la marque, la valeur des marques. Donc que la plus ancienne agence de pub vienne en parler, je pense que c'est une très belle occasion.
Oui. Vous serez conférencier donc durant ces 2 jours du salon de l'entreprise. La conférence est agendée à quelle date? Jeudi, vendredi?
Jeudi après-midi, 15h45. Tout le monde est bienvenue.
D'accord. Il y a 2 lieux, je crois, pour les conférences, si j'ai bien vu.
Oui, il y aura deux salles. Il y aura 2 forums. Le forum BCF et le forum FPE. Et chaque forum accueillera effectivement une vingtaine de conférences sur les 2 jours.
Bien. Et c'est à Espace Gruyère, à Bulle.
C'est
bien de le signaler aussi, hein.
Pour
les gens qui ne le sauraient pas encore. C'est là que ça se passe, à partir de demain. Béat, c'est un salon, bien sûr, j'imagine, pour les professionnels, mais aussi pour le grand public, pour les gens qui sont intéressés, entre guillemets, tout simplement à la vie des entreprises.
Oui, ce salon s'adresse à tout le monde, à toute personne active, qu'elle soit entrepreneur, cadre ou employé dans une entreprise. Ce salon va offrir l'opportunité véritablement de booster un peu les affaires et de booster les carrières de collaborateurs. Mmh. C'est une plateforme d'information, de formation et de réseautage extraordinaire.
D'accord, avec pas mal d'entreprises qui seront présentes, avant tout des entreprises de la place. Ou finalement c'est un salon roman, pour ne pas dire suisse.
Alors je dirais que le noyau dur est fribourgeois, clairement. Mais il y a quand même passablement d'entreprises qui viennent de toute la Suisse romande.
D'accord.
Voilà, le salon va au-delà du 026. Mais vous savez, c'est important d'avoir
d'être fort chez soi. Il existe autre chose que le 026.
Oui, exactement.
Bon, ben c'est bien. Je savais, parce que Michael Kam, qui est une agence à Lausanne, ben, il va s'installer en Gruyère. Parce
non, nous acceptons les étrangers. Oui, clairement. Oui, oui,
il
oui.
faut un 026.
Hein, exact. Ouais.
Pour que l'on soit considéré. Bon, ben, c'est bien. Alors, des gens qui viennent d'un petit peu partout, bien sûr. On parlera un peu des différents entrepreneurs présents. C'est vrai qu'il y a pas mal de thèmes qui sont abordés. Un des thèmes principaux, c'est quand même la digitalisation, la numérisation. Et ça, c'est aussi bien ou aussi bon, on va dire, pour les entreprises que dans la com. Hein. Aujourd'hui, on le sait, la com passe par différents vecteurs, mais la digitalisation et la numérisation, il faut faire gaffe quand on prononce ces termes, hein, qui ne sont pas toujours évidents, font partie aujourd'hui de votre quotidien, Michael.
Alors, c'est clair, la branche de la communication est en mutation profonde et moult révolutions, donc on est confronté à moult révolutions par jour. Dans tout cela, évidemment, il y a des opportunités extraordinaires. Toutefois, et comme plus ancienne agence de pub de Suisse, il faut savoir garder un peu les pieds sur terre. Et je crois que on est ici à la radio. Vous voyez bien que les gens qui nous écoutent, ils sont dans un environnement assez intéressant aussi pour de la publicité. Donc, moi, je suis quelqu'un qui défend vraiment la publicité classique, combiné avec du digital bien pensé. Je pense que c'est là où on va trouver le bonheur dans le futur.
Oui, alors il faut, mais c'est un petit peu partout, hein. On peut parler de la com, on peut parler des entreprises en règle générale, c'est-à-dire avoir une base solide aussi, être bien ancré comme ça dans le sol, mais savoir voir au-delà, entre guillemets, de ce que l'on fait aujourd'hui, hein. Sans pour autant tomber dans les pièges de la magnifique digitalisation qui nous fait tous vivre aussi au quotidien.
On est tous les mêmes, je dirais. On est attirés par la nouveauté. Il y a des promesses qui sont faites. On se rend compte avec l'expérience aussi que finalement, il y a aussi des côtés négatifs. Il faut bien les analyser, essayer de garder le positif et évoluer dans le bon sens. D'ailleurs, la radio elle-même se révolutionne.
Bien sûr, se pose des questions, etc. Et essayer d'évoluer,
d'avancer. Est aussi présente au niveau numérique, etc. Il y a des nouvelles formes à mettre en place. Je pense que, le client, l'auditeur est roi. On doit faire de sorte à ce qu'on puisse être écouté le plus possible. Et je crois qu'à partir de là, si véritablement la digitalisation nous amène à ça, eh bien, on est dans la bonne direction. Et au sein d'une PME, c'est la même chose. La digitalisation, franchement, change beaucoup de choses. Et en tant que patron, on se pose beaucoup de questions. Dans quoi j'investis? Est-ce que je dois investir dans un logiciel de projet extrêmement puissant qui va me coûter très cher? Est-ce que ça va être bénéfique? Et je crois que là, le salon est magnifique aussi pour comprendre l'environnement de cette digitalisation et l'ampleur que ça prend dans les entreprises.
Ça, c'est un des objectifs du salon, finalement, c'est donner quelques réponses, rassurer aussi les gens et puis essayer de leur indiquer le chemin ou un des chemins qu'ils pourraient suivre.
Absolument. Le salon s'est véritablement fixé pour objectif de présenter à son public des solutions pratiques et pragmatiques. Les conférences sont données par des praticiens, des gens qui ont du vécu.
Qui sont opérationnels sur le terrain, qui connaissent
absolument.
Véritablement.
Hein, mais le salon permet aussi aux jeunes talents ou aux jeunes entrepreneurs d'être en connexion avec les gens qui ont vécu un certain nombre d'échecs aussi ou qui ont réalisé des succès et puis je pense que c'est bien de mettre ensemble les jeunes qui souhaitent se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle entreprise, et puis aussi des gens qui sont un peu plus expérimentés.
Donc pas mal de start-up qui seront présentes également.
Oui, il y a un magnifique pôle de start-up. Il y a une vingtaine de jeunes pousses qui seront présentes dans les secteurs les plus divers, hein, dans le coaching, dans la formation, dans le coworking, c'est génial.
C'est génial. C'est pour ça qu'il a le jour, il est très enthousiaste et tout. Mais ce salon, c'est une start-up aussi en soi, puisque c'est la première.
Oui. Alors, oui, je suis plus beaucoup impliqué dans les startups. Oui, alors effectivement, ce salon, nous l'avons créé et conçu comme une startup. Dans ce sens où, avec la Fédération patronale de Bulle et Kunz Expo, puisque ma société co-organisatrice, nous avons non pas cherché des actionnaires ou des investisseurs, mais nous avons proposé à des sponsors et à des prestataires de services d'être partenaires du projet. Et une partie du financement du projet vient par ce biais-là. Et je crois que c'est important de créer dès le départ une relation de confiance avec les gens que vous souhaitez travailler. Ce qui est important, c'est toujours aussi de savoir renvoyer l'ascenseur. Il faut savoir donner pour recevoir. Ça a toujours été mon leitmotiv. Et comme ça, on arrive, je crois, à une relation durable.
Oui, un bel équilibre
dans
aussi,
les affaires. Hein. Ouais.
Et on l'a vu, il y a pas mal de partenaires, effectivement, dans ce salon.
Il y a de nombreux partenaires. Je ne sais pas si j'ose les citer.
Bon,
faites-vous plaisir.
Non, autrement, vous pouvez aller sur le site parce qu'il y en a combien ? Il y en a beaucoup. Donc,
il y a énormément de partenaires qui participent à cette. Je peux quand même citer pour les remercier la BCF, puis il y a la Vaudoise Assurance, Groupe Mutuel, Fiduconsult, Duplirex. Il y a plein de. Je dirais, c'est des partenaires dans les domaines les plus divers. Et c'est ça qui fait aussi la richesse, je dirais, de cette association.
Absolument. Il a fallu chercher par la suite les conférenciers aussi, hein, puisque c'est un des axes principaux de ce salon. Comment les choses se sont passées au niveau des choix aussi, des sujets, des thématiques, etc. Donc ça a été un travail de réflexion d'une équipe aussi par rapport à ce salon.
Oui, nous avions un groupe de travail, à commencer en fait par le comité de pilotage. C'est important lorsqu'on lance une nouvelle plateforme de ce type-là, de s'entourer d'experts. Et nous avons eu la chance vraiment d'avoir un collège d'experts extraordinaires qui nous ont conduits, qui nous ont aussi servi un peu de garde-fou suivant telle ou telle option que nous devions prendre, et ont contribué à la recherche de conférenciers. Il y a un deuxième panel de conférences qui sont données par les entreprises elles-mêmes. Et qui présente véritablement des produits ou des prestations nouvelles. Il y a les deux types de conférences. Alors je dirais que la première partie de conférences qui sont plus basées sur le vécu, des cas pratiques, c'est au forum BCF, et puis aux sponsors et aux exposants nous avons, et aux start-upers aussi, nous avons mis le forum FPE à disposition. Donc nous avons bien distingué un peu ces deux approches en termes de conférences.
Ouais. Très pratiquement, hein, vous allez sur le site du salon, parce que c'est vrai que là vous avez toutes les infos, d'une part les horaires aussi des conférences, c'est important, les conférenciers, c'est salon-de-l'entreprise.ch, alors salon-de-l'entreprise en un mot .ch, c'est parfois aussi compliqué, hein, finalement. C'est la digitalisation. Il faut rajouter des virgules, des tirets, des trucs, des machins.
Oui, d'avoir les bons URL.
C'est assez compliqué. Donc, salon-de-l'entreprise.ch. Mais là, vous avez tout. Hein. Vous avez les horaires, bien sûr, mais vous avez les conférenciers, des détails sur chacun des conférenciers, des conférences à donner, des partenaires aussi. Donc là, véritablement, c'est la bible de ce salon.
Et j'invite aussi les auditeurs, les auditrices à s'inscrire en ligne. Il y a des tarifs d'entrée qui sont donnés, il y a une trentaine de francs pour les entrées, mais ce tarif d'entrée comprend surtout aussi une vingtaine de conférences par jour, donc je pense que les gens ont pour leur argent. Si on vient à la caisse et paye à la caisse, c'est un peu plus cher, donc j'invite vraiment les auditeurs à venir à s'enregistrer directement sur le site.
Bien, oui, et puis alors 20 conférences par jour, comme on le dit, vous avez le choix en l'occurrence, donc on peut passer sa journée là-bas, c'est journée là-bas, jeudi, vendredi.
Même une partie de la soirée. Oui, pour être dans le train, nous avons même prévu une after. nous avons installé une bulle à l'extérieur. Vous voyez, bulle.
Oui.
À bulle, avec un air de bulle. Donc ça va jouer. Et nous pourrons accueillir effectivement les gens qui souhaiteraient encore réseauter un petit peu à la fin du salon dans un bar à l'extérieur.
Mais c'est magnifique, les horaires du salon.
Quoi.
Oui, c'est ça. Les horaires du salon, sans parler de l'after, hein, bien
Alors,
sûr.
Il y a donc le salon ouvre demain matin à 9h se termine à 20h, et puis le vendredi de 9h à 17h.
Bien. Et on poursuit par la suite dans cette fameuse bulle à bulle dont vous parliez, Béat. Bon, ben on va revenir sur le salon d'ici quelques instants, on va écouter un peu de musique. On avait le choix aujourd'hui entre Eric Clapton et puis Eric Clapton. On a choisi Eric Clapton, comme vous allez pouvoir le constater. Enfin, je ne sais pas si c'est Eric Clapton,
Eric
mais
Clapton
quoi qu'il en soit. Ah oui, c'est magnifique. Très très belle chanson.
Radio Fribourg,
à l'ombre du baobab.
Et là, on poursuit. poursuit avec le salon de l'entreprise qui va démarrer demain, qui durera deux jours. C'est à Bulle, à Espace Gruyère, premier du nom, premier salon de l'entreprise, avec plein de secteurs d'activité qui sont représentés, bien sûr, hein, création, transmission d'entreprise, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Béate, marketing et communication, on en parlera tout à l'heure avec vous, Michael Kam, banque, assurance, fiduciaire, RH, formation, bureautique, domotique, MICE, alors c'est meeting, incentive, conference, exhibition, events, ça c'est plus votre partie, hein, Béat, oui, c'est l'événementiel.
Alors, MICE, ça s'appelle MICE.
Ça c'est MICE.
Bon. Oui, c'est tout ce qui touche au meeting, en fait c'est une abréviation anglaise, meeting, incentive et congrès, effectivement. MICE. Oui, il y a deux, trois acteurs qui sont présents, et qui, ouais, qui mettent en valeur soit leur infrastructure de congrès, ou alors leur prestation comme agence événementielle.
Mmh. IT, le retour, non, c'est IT, hein, c'est ça. C'est les technologies de l'information. Parc d'innovation, pôle technologique, bien sûr. Lab 4.0, l'entreprise du futur. Tiens, qu'est-ce que c'est ça, Lab 4.0, l'entreprise du futur, Michael? Ou Béat? Bon, vous n'êtes pas conférencier, hein, je rassure tout un chacun. C'est pas vous qui allez faire des conférences sur l'entreprise du futur.
Non, je pense qu'on parle véritablement d'une révolution industrielle, 4.0, qui change le mode de fonctionnement de la personne et de l'entreprise dans son ensemble. Oui, il y a le mot-clé qui s'appelle digitalisation. Effectivement, cette digitalisation touche à tous les domaines, à tous les domaines d'activité d'une entité, d'une organisation. Et oui, ça a un certain nombre de conséquences, ça interroge. Ça réjouit, ça fait peur. C'est oui, nous sommes en plein dans cette révolution industrielle.
On peut dire une forme de révolution aussi.
Révolution. C'est pas une simple évolution. C'est vraiment un changement fondamental du fonctionnement de l'entreprise et donc du poste du poste qui sont en place.
Ça sous-entend une souplesse d'esprit extraordinaire aussi, hein. Non, les gens se doivent d'être très, je ne sais pas si le terme est exact, adaptatif, ou avoir la capacité de s'adapter.
Pour utiliser un autre mot, alors pas la mode, agile, peut-être.
Agile, oui.
Voilà, on en parle beaucoup de l'agilité, mais peut-être pour revenir à ce que vient de dire Béat, effectivement, là je parle en tant que patron d'entreprise, ces transformations sont complexes à mener dans toutes les entreprises et c'est vrai qu'on donne des noms comme ça et ça fait un petit peu rire, mais quelque part je trouve que c'est très important lorsque vous menez un projet, on a besoin d'identifier ce projet, de lui donner un petit nom, c'est comme un bébé, c'est beaucoup plus facile à porter un projet quand on s'attache à un nom, une identité, je parle de communication du coup, et donc c'est vrai que cette énorme transformation d'entreprise, aujourd'hui on appelle ça lab ou je sais quoi, et c'est vrai que dans toutes les entreprises on crée un peu des unités comme ça, et je trouve que d'un côté on peut trouver ça un petit peu ridicule, hein. D'un autre côté c'est extrêmement important pour mener ce projet dans les entreprises et surtout à créer une acceptance auprès des collaborateurs parce que pour eux c'est une transformation énorme.
Et ça c'est l'être humain, et là on retrouve l'agilité ou le terme agile.
Exactement, et l'être humain, vous le savez, on est tous des bêtes d'habitude et notre cerveau est fait pour ça, hein. Il est fait pour rester tranquille, en veille, pour économiser de l'énergie, donc à la base quand vous avez un ado qui ne se lève pas, c'est normal, son cerveau lui ne te lève pas. Sauf le mien, j'ai l'impression qu'il a pas envie de se... Et à partir de là, donc vous devez stimuler ce cerveau pour qu'il s'active, pour qu'effectivement il ait envie d'aller contre sa nature profonde, qui est de rien foutre, c'est juste dire de garder l'énergie pour aller chasser, pour amener à manger. Donc d'où l'importance de mettre des noms, l'importance de créer une force de communication et comme une marque. Et là je rebondis évidemment sur la magnifique conférence que je tiendrai demain. Elle s'appelle La marque, c'est bon pour la santé. Évidemment, petit clin d'œil à notre ministre bien-aimé qui nous quitte malheureusement. Qui finalement, vous vous rendez compte, ce garçon qui était quand même un des plus passifs, je dirais, du Conseil fédéral depuis quelques années, qui a réussi à transformer son image en quelqu'un d'extrêmement sympathique avec. Est-ce qu'il a fait exprès ou est-ce qu'il n'a pas fait exprès? En tout cas, s'il n'a pas fait exprès. En tout cas, si son but était de sortir, je dirais, avec un degré de sympathie assez élevé, il a réussi.
C'est réussi.
Quelle belle marque, ce Schneiderman. Donc je jouais avec cet élément.
La marque, c'est bon pour la santé.
Exactement.
C'est vrai. Nous sommes sur un projet, enfin, en ce qui nous concerne, hein, puisqu'on vient de finaliser plus ou moins Mediapark. Mediapark, c'est aussi un nom, et finalement, on parle toujours de ce nom lorsqu'on évoque ce projet.
Bien sûr, j'ai rien dit, on a construit un immeuble.
Et finalement, c'est rassurant aussi, c'est vrai, ah ouais.
C'est rassurant, mais on en a besoin, je veux dire. On a besoin de ces repères dans notre cerveau pour identifier les choses.
Non, j'évoquais le Lab 4.0 parce que c'est vrai qu'on passe du 2.0 au 2.3, après au 3.2, au 3.0, au 4.0, etc.
Quand on sera au 13, on sera avec autre chose, je pense.
Que peut-on faire maintenant? Eh bien, un nouveau salon d'entreprise qui s'intitulera le salon 13.0. Voilà, mais ça, c'est dans le futur.
Nous allons essayer de nous adapter à cette évolution.
Exactement, exactement. Start-up, ça sous-entend aussi jeune, souvent. Il y a aussi ça, il y a aussi le choc, j'allais dire, des générations, parce que les hautes technologies, les nouvelles technologies, la digitalisation parlent certainement beaucoup plus aux jeunes qui, on a l'impression parfois, ont déjà génétiquement modifié et ont ça dans leurs gènes, véritablement, et beaucoup moins à des gens un peu plus âgés, etc., qui, eux, se doivent de faire l'effort de mettre leur cerveau en activité pour mieux réaliser, comprendre et surtout accepter ces changements.
Oui, oui. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on a une obligation tous les matins de faire une petite mise à jour, si j'ose dire, comme notre système d'exploitation. Et c'est justement, je crois, un des objectifs de ce salon, c'est de manière assez simple et pragmatique, parler des révolutions en cours. J'ai fait un peu le tour, j'ai un petit peu regardé la liste des conférenciers, des thématiques abordées et des entreprises présentes. C'est vrai qu'il y a un magnifique panel pour ça. Et c'est ça qui est absolument génial. Je pense que toutes les générations vont s'y retrouver. Il y en a pour tout le monde, si j'ose dire. Et puis, oui, comme vous le dites, quand on est natif, on a tous été natifs de quelque chose. Nos parents, ils nous ont regardés de la même manière que nous, on regarde les enfants d'aujourd'hui. Et nos enfants regarderont leurs propres enfants de la même manière, un peu ébahis. Et c'est ça, finalement, la vie, quoi.
Absolument, Béat.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour être branché. Ma maman, elle a 82 ans, elle m'envoie des WhatsApp régulièrement.
Elle sera aux afters après.
Elle m'envoie des photos de ce qu'elle a cuisiné, etc. C'est extraordinaire. Être connecté, c'est vrai que c'est presque une obligation aujourd'hui, quel que soit l'âge.
Absolument.
Moi qui m'approche un peu plus des Alpes que de la Poya, en termes d'âge, eh bien, j'ai aussi dû faire quelques séances de rattrapage. C'est notamment mes fils qui m'ont instruit sur un certain nombre d'applications que j'ai dû découvrir. Et si vous n'êtes pas à la page au niveau carrière, vous, quel que soit votre âge, vous n'arrivez pas.
Ouais. C'est d'autant plus qu'à 50 ans,
vous n'arrivez pas à suivre.
Une fois sur deux, on vous dit mais vous commencez à être un petit peu âgé, etc. Vous avez aujourd'hui l'obligation d'être à la page quelque part. Oui. Ouais. Béat, lorsque vous avez préparé ce, vous vouliez rajouter quelque chose, Michael?
Non, effectivement.
Oui, c'est
vrai que le milieu de la communication, de la publicité, elle se transforme aussi énormément. Donc forcément, dans ce milieu-là, vous êtes confronté à ces changements. Donc vous devez les comprendre, vous devez essayer également de les anticiper. Donc je dirais que c'est aussi une question d'environnement. Donc c'est vrai que cette mise à jour, elle peut se faire plus facilement dans des environnements qui eux-mêmes en fait sont extrêmement stimulés et qui doivent qui de toute façon vous emmènent avec dans cette transformation.
Il y a Béat qui est en train de démonter le studio pour voir si on est encore opérationnel et bien équipé. Mais non, Béat, on est en train de transformer
c'est
le tout.
C'est demain que le salon ouvre.
Oui, non, mais on a la preuve qu'il est bien connecté. C'est bon.
Ah oui, il est hyper connecté. Béat, c'est sa maman qui lui a envoyé un message pour lui dire arrête de dire des bêtises, s'il te plaît, Béat.
Comme quoi. Je viens de mettre le Natel sur
silencieux.
Sur silence.
Oui.
Mon avion.
Voilà, c'est bien.
On est plus retard que jamais.
On s'apprête à décoller, alors.
Non pas à cause de ma maman, mais je pense que c'est agréable pour l'émission.
C'est bon. Bien, juste une question, Béat, avant de partir en musique. Lorsque vous avez défini et décidé de mettre sur pied ce salon, vous êtes allé justement consulter un certain nombre d'entreprises pour savoir quels seraient leurs besoins en termes de réponses à apporter à d'éventuelles questions.
Oui, totalement. Une étude de marché avait été faite par la Fédération patronale économique de Bulle, déjà en 2014. Et cette étude de marché, effectivement, a démontré que beaucoup d'entreprises avaient besoin de solutions et de contacts pour toutes sortes de services, que ce soit dans le domaine de l'informatique, fiduciaire, communication ou encore dans les ressources humaines. Et donc, la réaction des entreprises interrogées était d'emblée positive. Et c'est ça qui a incité, finalement, la Fédération patronale de lancer ce projet. Et puis, bon, moi, j'ai la chance, en l'occurrence, d'être partie prenante. Et cet enthousiasmant de créer ce type de plateforme qui serve finalement l'intérêt d'une région, de tout un tissu économique et social.
Surtout que Fribourg a toujours, depuis quelques années, on va dire en tout cas, a toujours essayé de s'inscrire dans cette évolution technologique. Je crois que c'est Beat von Lanten qui parlait de high-tech in the green, quelque part.
Oui.
C'est un petit peu Fribourg et c'est une continuité. J'allais dire, le salon d'entreprise, ça va ouvrir un petit peu quelques portes aussi de ce point de vue-là.
Alors, en tous les cas, le salon de l'entreprise est censé perdurer. Oui. Enfin, nous souhaitons effectivement que ce soit une solution durable et non pas un coup unique. Absolument. En tous les cas, nous avons tout mis en œuvre pour que ce ne soit pas le cas.
Bien, Michael, on va revenir à votre agence d'ici quelques instants. Je parlais de Clapton. Enfin, on a écouté Clapton tout à l'heure. On a reparlé de Clapton. Je ne sais plus ce que j'ai dit, qu'on allait écouter que Clapton aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait ça, mais ça, c'est Gregory Porter qui interprète un titre d'Eric Clapton. Et vous allez voir, c'est assez magistral en public en plus.
The stars look down, and you hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a strangest coat, no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me, my only friend? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly is empty, the hunger's so real. You're too proud to beg, you're too dumb to steal. You search the city for your only friend, no one would you see. Yourself, who could it be? A solitary voice speaking out, set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know, but it's hard for us both. Let our feelings show. Some would say I should let you go your way. You only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who would lay down his life for you and I, I had to say it. It's hard to say it, but it's probably me.
My probably me.
Gregory Porter en public, It's Probably Me, une chanson d'Eric Clapton, qui a été reprise aussi par Sting, c'est vrai, oui. On en parlait tout à l'heure. Mais c'était une belle version, Gregory Porter, un nom à retenir.
Magnifique artiste.
Qui fait pas mal de choses. Il ne sera pas présent au salon d'entreprise, parce qu'il n'avait pas d'entreprise sous la main.
Alors j'ai compris du titre, que It's Probably Me. Qui va au salon de l'entreprise.
Ah, bah ça, c'est peut-être c'est une extrapolation comme ça. Bon. Bien, le salon d'entreprise, puisque c'est le sujet du jour, hein, qui ouvre ses portes demain à Espace Goyer à Bulle. Demain est vendredi. Un site à aller consulter, salon-de-l'entreprise-en-un-mot.ch pour tous, les conférences, les participants, bien sûr, les entreprises présentes, les start-up présentes, avec tout ce que l'on peut évoquer aujourd'hui par rapport au monde de l'entreprise, mais beaucoup de choses entrées avec la digitalisation, la numérisation, l'intelligence artificielle, peut-être même, si ça se trouve. Mais je ne sais pas si il y a des gens qui sont là aussi pour moi.
L'intelligence artificielle, elle est partout.
Elle est partout, oui, c'est ça.
La vraie et l'artificielle.
Aussi. Et des conférences, comme on le disait tout à l'heure, avec entre autres une conférence de vous, Michael Cam, qui dirigeait l'agence Trio à Lausanne. Je rappelle que vous êtes toujours, hein, puisque c'était 18-19, le publicitaire de l'année. On se connaît un petit peu parce qu'en fait, vous avez été l'agence qui a été mandatée pour travailler sur la problématique de l'initiative Nobilag aussi. Ouais. Avec succès. Ouais, heureusement pour nous,
félicite tous les votants d'avoir fait un bon choix.
Mais enfin, c'est assez drôle parce que finalement, on est tout bon, je crois. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est Caroline me faisait des grands signes. Finalement, on a trouvé. C'est
voilà,
génial.
J'ai trouvé ton prochain extrait musical. C'est bien.
C'est formidable. Parce que j'ai aussi choisi quelque chose comme ça, hein, pour me faire plaisir. Mais pendant qu'on parle, on n'écoute pas de la musique. Bref, Novilac, ça a été toute une aventure. Et pour une agence de com, finalement, être dans l'institutionnel aussi, dans les causes ou les choses politiques, ça change un petit peu, j'imagine. Vous parliez de marque tout à l'heure. Hein. Là, c'était pas une marque à défendre, c'était plutôt une idée.
Une idée. Non, je dirais qu'il y a des manières de penser qui sont complètement transversales sur l'ensemble des problématiques qu'on peut toucher, qui sont vraiment extrêmement variées. Vous avez parlé communication institutionnelle, des campagnes de votation pour des produits. Par exemple, on travaille actuellement pour le Vacherin fribourgeois. Je m'empresse de le dire, un magnifique produit, n'est-ce pas, de ces belles terres fribourgeoises. Et c'est vrai que, je dirais, il y a malgré tout des fils rouges dans une manière de travailler chez l'agence Trio depuis 1931. On aime raconter des histoires, on aime raconter des choses qui marquent et des choses surtout qui ont une certaine durée. On essaie toujours de travailler un petit peu dans cette durée-là. Donc je dirais, pour rebondir maintenant sur la campagne Non à Nobilag, je dirais que c'est un petit peu compliqué. C'était simple et compliqué. Pourquoi c'était compliqué? La thématique est extrêmement compliquée, les gens ne comprenaient pas finalement qu'est-ce qu'il fallait voter. Et finalement, cette complexité a fait la simplicité de la campagne,
c'est-à-dire
d'abord une recommandation de vote, tout d'abord pour que les gens comprennent qu'il faut dire non et pas oui, hein, parce que c'est vrai que le non était, on va dire, trouvé de manière assez malin des initiateurs, mais on a réussi à le contourner, ma foi, placardant des grands noms pour que les gens comprennent. Et ensuite, cette campagne était surtout un succès, je pense aussi, parce que l'ensemble de la branche des médias a elle-même travaillé beaucoup en faveur, elle a énormément travaillé, elle a fait beaucoup d'informations, elle a fait beaucoup de promotions, donc je crois qu'elle a bien participé aussi à ce succès-là. Et on a pu remarquer aussi dans cette campagne qu'un travail intelligent sur des médias classiques, à la radio, de l'affichage, de la télévision, à côté de ça, avec une campagne digitale aussi bien pilotée, eh bien, on peut réussir des très bons résultats aussi.
Et c'est ce que vous allez présenter lors de cette conférence aussi, c'est cette capacité qu'on a aujourd'hui d'utiliser tous les supports, de ne pas forcément partir dans une seule direction. Aujourd'hui, on parlait de digitalisation, numérisation, etc. C'est un peu une tendance, mais là aussi, il y a beaucoup de choses, entre guillemets, à comprendre, tout simplement pour une utilisation adéquate.
Alors dans ce cadre-là, Béat m'a demandé de parler aux PME. Donc j'ai un discours qui est adapté à cet auditoire-là. Et c'est vrai que je remarque auprès de mes clients PME une espèce de... ils ont une grande peine à assimiler l'offre aujourd'hui, le nombre de canaux qu'on peut trouver, etc. C'est vrai que c'est extrêmement compliqué à faire des choix là-dedans. Et finalement, ce que je vais essayer de leur transmettre, c'est de effectivement trouver un fil rouge dans leur communication être malin pour mettre en place un mix média avec du classique et du digital, mais intelligemment monté, et surtout de ne pas avoir peur de répéter ce concept, de le répéter pour monter petit à petit finalement votre marque qui prend de la notoriété. On va créer une association à votre marque par rapport à cette publicité, et de répéter tout en innovant toujours un tout petit peu le message. Et là je donne un exemple très simple que tout le monde connaît, ça commence par Cher Mobilière, n'est-ce pas? Et c'est vrai que elle a cette puissance de la répétition, et finalement j'ai l'impression qu'on reste dans la même chose, mais il y a mille manières de raconter cette histoire, et pour moi c'est un véritable succès et extrêmement simple. Donc voilà, je vais essayer plutôt que de leur parler de tous les trends qui existent, plutôt essayer de les rassurer et de leur dire faites des choix, et surtout après tenez-les et soyez malins, je dirais, dans le choix de vos médias aujourd'hui.
Ne partez pas dans toutes les directions, etc. Exactement. Donc il faut quand même avoir une ligne d'une part, et puis ne pas s'empêcher ou s'interdire d'en faire moins par rapport à l'ensemble de l'offre que l'on a.
Exactement.
Et quand je dis d'en faire moins, de mieux cibler, mais de ne pas partir dans toutes les directions.
C'est vrai. De concentrer un petit peu son effort, de faire bien attention aux choix qu'on fait initialement sur certains médias, parce qu'un budget média dans une PME, il est par définition restreint. On n'a jamais assez d'argent pour faire de la pub. Donc il faut faire des bons choix, et il faut faire des choix pragmatiques. Je vous donne un exemple aussi. Aujourd'hui, vous voyez, un salon se lance. Donc ça veut dire qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à investir pour être présent, pour privilégier le contact. Et ici, par exemple, on parle beaucoup digital, etc. Mais malgré tout, n'oubliez jamais, chers PME, que les affaires se font dans le relationnel. Construisez-vous un réseau, c'est la base. Et des salons de ce type-là, c'est absolument génial pour ça. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est pas nouveau. Déjà
en 1931.
En 1931, déjà, c'était comme ça. Et même déjà, l'homme de Néandertal, qu'est-ce qu'il va faire? Il était de l'autre côté, dans la grotte, trouver son pote pour se dire, tiens, si on allait chasser à deux, ce serait peut-être plus facile pour choper un mammouth. Ben, c'est déjà la même chose. Donc, c'est dans ce sens-là que je trouve génial qu'on voit que le milieu des expositions est aussi en train de transformer des institutions fermes, et il y a une émergence de nouveautés, et il y a du succès qui les accompagne. Donc on voit que voilà, il faut trouver cette bonne balance entre des nouveautés, mais malgré tout privilégier l'échange entre les gens, le relationnel.
Ça c'est un peu rassurant aussi, hein, finalement, puisqu'on n'arrête pas de parler de numérisation, de digitalisation, etc. Recentrer un peu le débat ou le discours autour du fait qu'avant tout, nous sommes des humains et que nous avons besoin de communiquer ensemble de manière tout à fait naturelle.
Alors, je suis tout à fait l'avis de Michael. J'ai le sentiment que plus on digitalise, plus on opère dans des processus très complexes, être assis aussi devant le PC toute la journée, branché sur l'iPhone, toute cette évolution fait que nous avons besoin de nous rencontrer. Un retour vers les cinq sens et de se voir, de se parler. Effectivement, nous sommes tous des humains, on a besoin de se rencontrer. C'est ça qui m'incite à croire que le secteur de l'événementiel, justement, le secteur des salons et des conférences, n'est de loin pas mort. Et je pense que plus on digitalise, plus on aura besoin de ce genre de plateforme pour échanger. Peut-être qu'on n'échangera plus des cartes de visite, mais on échange une information, on échange
et
une idée.
Et on se parle finalement, on apprend à se connaître
voilà.
Aussi.
Oui, je pense que pour ma part, je suis totalement acquis à cette
cause. Ben oui, parce que finalement, tout ce qui est du domaine de la digitalisation, ce sont finalement des outils qui devraient nous simplifier la vie, mais non pas nous isoler, en l'occurrence, parce qu'on se retrouve dans une espèce de tour technologique qui fait qu'on n'a plus accès à l'extérieur.
Non, c'est vrai, ça devrait nous faciliter la vie. Mais c'est d'ailleurs un peu le cas, mais on est encore un petit peu perdu de comment l'utiliser intelligemment, je dirais simplement. Et comme tout être humain, on a un petit peu peur de cette nouveauté. Mais malgré tout, c'est quand même génial. Regardez, aujourd'hui, on parle de home office, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, dans mon entreprise, je pourrais dire qu'il suffirait qu'on se voie pendant 3 heures, toute l'équipe par jour, ça suffirait clairement pour avoir cet échange. Et tout le reste, de toute façon, se passe devant un écran, se passe en train de faire des recherches, etc. Donc on pourrait se dire, tiens, et si on libérait les routes, simplement, en disant, bah, les gens, ok, venez, on va manger ensemble, on travaille ensemble de 11h à 14h, et ça pourrait suffire, et on pourrait commencer à créer des flux intéressants. Et c'est vrai que, vous voyez, cette digitalisation, elle peut nous amener à des nouvelles solutions qui doivent nous aider à simplifier notre vie.
Mais c'est ça, c'est ce que l'on doit garder en tête avant tout. Hein. Ne pas être finalement otage des technologies, mais plutôt un véritable acteur et se simplifier l'existence. Radio Fribourg. Ouais, bah, d'autant plus que le prix est favorable.
Oui, le prix est de 30 francs avec accès aux 20 conférences qui sont données par jour. C'est 40 francs à la caisse. Donc ça vaut la peine de s'inscrire pour bénéficier de ce rabais.
Absolument. Et puis c'est un salon, comme on le disait, qui est destiné bien sûr aux entrepreneurs, aux entreprises, mais aussi au grand public, à tous les gens qui s'intéressent finalement à la vie du monde.
À consommer sans modération.
À consommer sans modération. Bon, bah, c'est parfait. Michael Kahn, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'être venu. Bonne conférence, bon séjour à Bulle. Enfin,
merci beaucoup.
Bien, parce que vous êtes gruyérien. Hein. Vous habitez.
Tiré à pied au salon.
Ah oui, vous habitez à Bulle en plus.
Non, juste à côté, à Echardens. Mais...
ça fait du bien. Marcher,
ça fait du bien.
C'est bon pour la santé.
C'est aussi bon pour la santé.
Beat Kuntz, merci.
Merci
à très bientôt.
Pour l'invitation.
Bon salon, on se quitte en musique. Bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Eh bien oui, manifestement, la musique a décidé de s'arrêter. Pourquoi hein? C'est ça l'innovation aussi. De temps en temps, on pense à un morceau et il s'arrête. Alors il faut innover et trouver quelque chose. Béat, est-ce qu'on fait un petit duo les deux dans
une chanson? Non, mais il n'y a pas besoin, on va partir avec Céline Dion, parce que bon, le PC, Dion. Il a planté, vous voyez ça,
c'est aussi, voilà, bravo.
Ça, c'est aussi la magie de la digitalisation.
L'accent canadien, je n'en sais pas.
Bon, ben, tant pis, alors, laissons Céline Dion et les infos d'ici quelques instants.
Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Les armailles des colonnettes des
carrière radiophonique s'arrête là ou est-ce
absolument.
Que se poursuit
sa place. C'était ton dernier club, c'est terminé. Elodie, voilà, tu nous rends la carte. Tu nous rends
ça
la carte.
C'est fait.
On lui prend sa place cette fois, merde.
Mais c'était beau, moi j'ai eu vraiment le cœur qui a frémi. Tu as vu? Oui, sous ouais. Ma poitrine. Non mais bravo, fallait quand même le faire en direct sur Radio FR, ma foi, bravo.
Merci Elodie pour l'invitation.
Merci
bravo,
Elodie, merci
plaisir.
Elodie.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Allez, c'est l'heure de notre arrêt télé. On a regardé le 19h45 d'M6 avec une grande question. Si on vous demandait de choisir entre l'intelligence, la richesse ou la beauté, quel serait votre choix ?
Et que choisit-on entre la richesse, l'intelligence ou la beauté ?
L'intelligence serait pour moi le plus important.
L'intelligence pour savoir bien placer son argent.
Et la beauté, vu ma tronche, on s'en fout.
L'étude montre un classement sans appel. La richesse et l'intelligence sont au coude à coude et la beauté ne fait pas recette. Plus généralement, les réponses des Français correspondent à un contexte de crise.
Radio Fribourg.
Radio FR. Radio Fribourg.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Le Fribourg,
c'est une autre histoire.
On ne peut le classer ni chez les jeunes ni chez les vieux, tellement il est intemporel. L'historien de Radio Fribourg, on est tellement heureux de vous retrouver, mon bon Alain Jacques Tornard. Soyez le bienvenu.
Bienvenue.
Bonne et heureuse nouvelle année.
C'est ce que j'allais dire, bonne et heureuse année. C'est à tous nos auditeurs et auditrices. D'ailleurs, je fais un petit salut particulier au responsable de la pédale bulloise, parce qu'il nous écoute. Et il m'a proposé de faire quelque chose autour de les 100 ans de la pédale bulloise.
C'est vrai que vous avez fait un peu de vélo l'année dernière,
oui,
on s'en souvient.
Plus, oui, tout à fait. J'adore le vélo. Alors, et comme il nous écoute, il a trouvé que c'était tellement passionnant, notre émission. Il dit, mais ça serait bien que pour notre 100e anniversaire, on ait un conférencier comme ça. Alors, ça m'a fait plaisir. Je l'ai reçu hier en fin d'après-midi. Je lui fais un petit coucou.
On sent en tout cas les bonnes résolutions d'Alain Jacques Tornard. Déjà, l'année dernière, il nous proposait un superbe parcours historique didactique, non pas en voiture, mais à vélo. Alors, parmi vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année 2022, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Veganuary. Il y a possibilité d'observer pendant tout le mois de janvier un régime sans produits à base animale, c'est-à-dire un régime végétalien, autrement dit. Est-ce que ça vous tente, ça ?
Bon, moi, vous savez, je n'aime pas les produits avec du lait. Donc déjà, c'est
mal parti, là.
Il y a plusieurs choses qui me dérangent. Bah, déjà, l'utilisation toujours de l'anglais, là, pourquoi pas utiliser un mot français pour dire ça.
Vous le prononcez très bien.
J'aime beaucoup les légumes. D'ailleurs, il y a 40 ans, quand je faisais de la bolognaise, je mélangeais avec du soja, des graines de soja, parce que je trouvais ça très bon. Et quand je fais une sauce bolognaise, j'adore mettre beaucoup de carottes, des trucs comme ça.
Qu'il nous donnerait faim, le bougre.
La seule chose qui me gêne dans cette vague, ouais. c'est le fait qu'on veuille absolument imiter la viande. Comme une frustration, là, on en parlait hors antenne, d'ailleurs. Pourquoi imiter? Alors, bien sûr, on est en transition. C'est un mot qu'on aime beaucoup utiliser en ce moment, hein, vous avez remarqué. On est en transition pour beaucoup de choses. Et là, en l'occurrence, on imite absolument la viande pour tout. Je me dis qu'on doit mettre quand même une sacrée cochonnerie dedans pour que ça soit imité comme ça bien. C'est cet aspect-là qui me gêne. Moi, ça me... Et puis quand je vois le nombre de fois où c'est à demi-prix dans nos grandes enseignes...
Ça veut dire qu'on a de la peine à écouler tout ça, alors ?
Oui, peut-être. Mais c'est une bonne chose qu'on aille vers les légumes. Les légumes, moi, je suis allé au Japon. Les légumes sont très, très présents. Qu'on multiplie cela, c'est très, très bien. Mais qu'on imite sans arrêt pour faire semblant de manger de la viande, je veux dire, c'est en plus de la frustration, c'est très... je sais pas si c'est vraiment très sain. Voilà, quand on parle de nourriture, on aime bien quand ça soit sain. Autant manger des légumes. Moi, le mot vegan, presque, quand j'entends le mot vegan, j'ai presque envie de me crisper, quoi. Parce que, alors que c'est un très beau mot en soi. Quand ça devient idéologique, on le verra tout à l'heure, d'ailleurs, quand on parlera d'un certain Macron, quand l'idéologie s'en mêle, c'est toujours un petit peu gênant.
C'est vrai qu'on va parler d'Emmanuel Macron et de sa déclaration choc, lâchée dans les colonnes du Parisien la semaine dernière. Les non-vaccinés, j'ai envie de les emmerder. On va continuer à le faire jusqu'au bout. On analysera cette phrase de l'actuel président de la République. On verra si c'est vraiment digne digne d'un chef d'État de sortir des choses comme ça. On évoquera aussi les 400 ans d'un certain Jean-Baptiste Poquelin, hein, c'est le vrai nom de Molière. Et pour bien commencer cette émission dans quelques instants, hein, la Grèce qui proclamait son indépendance, c'était il y a 200 ans, quasiment jour pour jour. Ce sera l'occasion pour vous également, Alain-Jacques Tournard, de nous parler d'une très belle exposition que vous avez vue à Genève, je crois, pendant
tout
les fêtes.
Tout à fait, au musée d'art et d'histoire, et en plus c'est gratuit, je le précise.
En plus c'est gratuit.
Les musées genevois sont gratuits. Les grands musées genevois publics, hein, pas les privés. Et je trouve qu'on devrait un peu plus s'intéresser à cela. Parce que
petit appel du pied à nos nombreux directeurs et autres conservateurs de musées qui écoutent régulièrement cette émission. On vous retrouve Alain-Jacques Tournard juste après les Queen et I Want to Be Fribourg.
C'est une autre histoire.
Le 12 janvier 1822, la Grèce proclamait son indépendance. Elle appelait les nations chrétiennes à son secours. Et c'est le début d'une longue guerre, hein, la guerre d'indépendance grecque contre les Turcs. Un conflit qui durera officiellement jusqu'en 1929 et qui... 1829, merci de rectifier, vous suivez mieux que moi. Et qui menaça la Sainte Alliance née du congrès de Vienne en 1815. Ce qui vous a donné envie, véritablement, de parler de l'anniversaire de la Grèce, c'est cette exposition, hein, que vous avez vue à Genève pendant les fêtes.
Hein. Oui, au musée d'art et d'histoire. Elle se déroule jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30. Elle est d'ailleurs accompagnée d'un très beau catalogue et surtout, elle nous raconte l'histoire des liens entre la Suisse et la Grèce. Moi-même, j'avais été contacté il y a deux ans pour participer à cela. Puis bon, je suis pas du tout spécialiste de l'histoire de la Grèce, mais c'est absolument passionnant. Le lien entre... On est totalement méconnu, le lien entre la Suisse, les Suisses et la Grèce. Et les Suisses ont joué un rôle important dans le processus d'indépendance de la Grèce, comme nous allons le voir. D'ailleurs, à un moment donné, il y a eu des Suisses qui ont joué un rôle dans les îles grecques, les îles ioniennes. Il y a le futur général Dufour, vous savez, celui du Sunderbund.
Bien sûr.
Ben oui, mais il était d'abord officier napoléonien à Corfou. Et il y a eu aussi un gouverneur neuchâtelois à Zante. Alors, bon...
Revenons à notre 12 janvier 1820.
Exactement. Alors en fait, c'est un archevêque orthodoxe, Germanos de Patras, qui en mars 1821, réunit un congrès à Épidaure, vous voyez, dans le Péloponnèse, un lieu, là encore, ces grands lieux mythiques de la Grèce. Et après deux semaines de délibération, le 12 janvier 1822, il proclame unilatéralement leur indépendance et appelle les nations chrétiennes à leur secours. Et c'est en effet le début d'une longue guerre d'indépendance. Et vous allez me dire, ces nations chrétiennes, bien entendu, ont répondu comme un seul homme à cet appel.
Ça aurait été trop simple.
Ouais, mais parce qu'on les avait abandonnés depuis tellement longtemps, les Grecs, à leur propre sort. D'ailleurs, c'est amusant parce que je parle au passé, mais on pourrait très bien parler exactement de la même manière au présent. Alors, je ne veux pas remonter au déluge, mais la chute de l'Empire byzantin, la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, s'était déroulée, d'ailleurs on a mis que c'était la fin du Moyen-Âge d'ailleurs, mais ça s'est déroulé quasiment dans l'indifférence en Europe. On a vu, comme on dit vulgairement, puisqu'on va parler de Macron tout à l'heure, on les a laissé crever la gueule ouverte, quoi, carrément à ce moment-là. Et donc ils sont tombés sous la coupe du sultan, et Constantinople est devenue Istanbul, comme on le sait. Et en fait, il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour qu'on commence vraiment à s'intéresser, parce que c'est devenu un lieu un enjeu politique, géopolitique entre les Anglais et les Français. Je parlais tout à l'instant du général Dufour. Pourquoi? Parce que ces îles, il fallait les contrôler. D'ailleurs, c'est pour ça que les Italiens eux-mêmes vont mettre la main sur d'autres îles au sud de la Turquie, les îles grecques. Et tout cela fait que En fait, pendant des siècles, ils ont été totalement dominés et ça est devenu petit à petit insupportable. Et cette révolte va être noyée dans un premier temps dans le sang. Tout le monde a en mémoire le massacre de Kiev
les grandes exactions de cette guerre.
Je me souviens parce que j'avais été très impressionné. Je pense que vous aussi d'ailleurs quand on nous enseignait l'histoire grecque et de voir comment cette île de Kiev qui a eu un massacre, ça a été peint par Delacroix. Le tableau avait été présenté au Salon en 1824. En 1829, Victor Hugo écrit dans Les Orientales un très beau poème où il dit qu'il faut des balles pour les Grecs. Et alors donc, ça a créé un mouvement qui est aussi parti quelque part de la Suisse. Il y a eu, c'est bien raconté dans l'exposition, la famille Hénard, qui est une grande famille genevoise, qui va vouloir mettre en place un État pour la Grèce. Il y aura Lord Byron, bien entendu, celui qui a, c'est ceux qui avaient écrit, qui avait pas simplement passé du temps au bord du lac Léman, et qui là aura été un des grands combattants pour l'indépendance grecque. D'ailleurs, il mourra à Missolonghi en 1822, et donc ça va être l'objet tout à coup d'une prise de conscience. La Sainte Alliance ne voulait pas en entendre parler. D'abord, vous savez, il y a cette création en 1815 d'une sorte de consortium européen.
Voilà, où on s'est dit toute velléité de révolution doit être tuée dans l'œuf.
Exactement. En fait, c'est ça. Donc c'était vu comme une révolution, alors que les Grecs n'étaient pas des révolutionnaires. Ils voulaient simplement, c'était des nationalistes. Ils voulaient créer leur propre nation. Et finalement, c'est presque sur un malentendu qu'en 1827, il y aura cette fameuse grande bataille navale de Navarin, où la flotte turque, en fait, il y a eu un malentendu. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans les guerres. Des fois, il peut y avoir un malentendu qui fait que tout à coup, il y a un combat qui se déroule. Donc, Navarin, 1827, les Turcs sont humiliés. Alors, bien sûr qu'il va y avoir l'indépendance grecque en 1829, mais ça se résumait au Péloponnèse. Et il faudra attendre, quand vous faisiez le lapsus tout à l'heure pour 1929,